Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Hara Kazuhiro. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Kazé ou Crunchyroll, puisque donc Crunchyroll est à remplacer Kazé. Donc on aura la chronique du volume 4 de Ultimo, la présentation du manga Adieu Eri et la chronique du volume 7 de Sprite. On aura ensuite un gros point sur les sorties manga de la semaine, puisqu'il y aura toutes les sorties pour la Japan Expo qui aura lieu donc de jeudi à dimanche prochain. On aura ensuite une partie culture, on va parler un peu histoire avec le Japon entre ouverture et repli dans les années 1800. On aura ensuite une petite actualité au Japon avec une application pour identifier la douleur des chats. Et on finira l'émission avec une news musicale concernant la nouvelle agence artistique japonaise Tobe qui dévoile ses premiers artistes. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Across the Universe de Baek Yerin. Et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Hara Kazuhiro. 혼자서 널 기다릴 때면 나 혼자 다른 액상에 있는 듯해 여기서 네가 있는 곳까지 얼마나 오래 걸릴지 난 궁금해 상상이 안 돼 내게 좀 더 빨리 와줘 그대가 없는 이곳은 내게는 너무 캄캄해 나 여기서 두 발 벌려 그대를 안아줄 준비가 돼 있어 너와 나 사이에 우주를 건너 내게로 would you like to come over to me 너와 나 사이에 우주를 건너 내게로 날아와줘 더 이상 기다리게 하지 마 Yeah, I'm waiting for you now Ay, ay, ay Baby, I need you now Ay, ay, ay I'm waiting for you now Ay, ay, ay Baby, I need you now 저 멀리 널 보고 있으면 너와 나는 다른 생각을 여기서 언제까지나 기다리고 있어야 하는지 궁금해 답답하기만 해 내게 지금 빨리 와줘 그대가 없는 이곳은 내게는 너무 막막해 donc, c'était Back Yerin avec la chanson Across the Universe. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Hara Kazuhiro. C'est un arrangeur musical et compositeur japonais qui est né un 24 octobre et qui est toujours en activité, ce depuis 1989. Kazuhiro Hara a déjà remporté une récompense pour son travail en 2000 au 42nd Annual Japan Records Awards. Il a travaillé avec de nombreux artistes depuis 1989 et a côtoyé les plus grands. Parmi la liste de ses compositions et arrangements, on retrouve sa touche sur les musiques d'Amasaki Ayumi, Nanase Aikawa, Wins, Arashi, Kodakumi, Tiara, Natsukawa Rimi, Exile, Max, Suga, Flame, Koyanagi Yuki, Sheila, TRF, Koto, Tōshinki, Boa, Nitro, Kamiki Aya, Lyrico, Ribbon, Every Little Thing, Cat Tune, Amano Hironari, Crystal K, Tamaki Nami, Boy Style, Melody, Aisei Jump, Route Zero, Rag Fair, Love and Soul, Takashi Masuzaki, Ayashibara Megumi, Onjo Misako, Amada Mari, Tamura Yukari, Suzuki Ami, Shimatani Itomi, Masayuki Suzuki, Manaka Senri, Saito Michi, Go Hiromi, Surface, Katsuno Takahashi, Tsubasa Makoto, Alisa Mizuki, Ito Yuna, Katase Nana, Tomomi Kahara, Kubo Ruriko, Matsushita Moeko ou encore Okamoto Rei. Donc côté discographie, en plus de ses très nombreuses collaborations avec les artistes et groupes dont je viens de parler, Hara Kazuhiro a participé à 32 OST. Donc on a notamment Ersian en 1988, Bano Bonka Neko Musume Oseki Bako en 94, Outlaw Star en 98, Your Under Arrest The Movie en 99, Angelic Layer en 2001, Aquarian Age Sign for Evolution en 2002, Hikaru no Go en 2003, Inuyasha en 2004, Digreman en 2007, Your Under Arrest Full Throttle en 2008, Gundam 13th Anniversary Box en 2010, Final Fantasy X-2 en 2013, Macross 13th Anniversary en 2014, Square Enix Music Presents Lifetime Drive en 2015, King of Prism Shiny Seven Stars en 2019, Zombieland Saga Revenge en 2021 et D4DJ Groovy Mix Cover Tracks Volume 7 en 2023. Donc il a notamment composé 14 génériques d'animés. Donc on compte parmi tous ces génériques One Voice for Ergaze pour Next Senki Ergaze, Sook the Night pour Seiro Bukyo Outlaw Star, Calling pour Taiyo Shisozo The Movie, Ameagari pour Kido Tenshi Angelic Layer, Days pour Hikaru no Go, Grip pour Inuyasha, Yume Totsuzukie pour Digreman, Mugen Myself pour Danbal Senki Wars, Saga GN pour Zombieland Saga Revenge et Toki Toshite Violence pour Jashin Jack Dropkick en 2020. Et pour finir, donc côté discographie, il a composé deux génériques de jeux vidéo. Donc c'est la même chanson qui est en version normale japonaise donc, et en version internationale. C'est Real Emotion pour le jeu donc Final Fantasy X-2 qui est sorti en 2003. On va pouvoir s'écouter tout de suite donc deux chansons qui ont été composées par Hara Kazuhiro. On commence avec Real Emotion, la version anglaise interprétée par Kodakumi, qui a servi d'opening pour le jeu vidéo Final Fantasy X-2, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 4 de Ultimo.
All my wild imagination, but here I am finding myself so lost. And there is a way for me to turn back. Everything they see, they're different from what I had imagined they would be. Everything looks different, now getting dizzy.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Good time.
しいで進むしかないんだよ。さまよって悩んでそんな自分も手にする未来はどんな形だろう。壊してしまえ、邪魔する不安を砕いてしまえ、握りしめた手でその痛み刻んで嘘だ飛び込め。本当はもっと自分を信じてるんだろう。終わりなき夢の続きへ。
Donc c'était Surface avec la chanson Yume to no Tsuzukie, qui a servi de troisième ending pour l'anime Digreyman, une musique qui a été composée et arrangée par Ara Kazuhiro. On passe maintenant à la chronique du volume 4 de Ultimo. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre aventure fantastique qui a été écrit par Stan Lee, dessiné par Takei Hiroyuki et prépublié dans le Jump SQ. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 12 tomes qui termine la série. Et la version française est parue aux éditions Kazé dans leur collection Shonen Up avec également 12 volumes. Ce volume 4 est sorti le 7 juillet 2011 au prix de 6,99€. Le résumé de ce tome, le choc des 100 machines a abouti à l'annihilation pure et simple du camp du bien. Dans une tentative désespérée de remonter le temps, God Ultimo provoque une distorsion spatio-temporelle qui déchaîne la fin du monde. 21e siècle, Tokyo West, un jour avant le choc des 100 machines. Yamato a retrouvé sa vie de lycéen ordinaire, mais la vision de l'apocalypse causée par les Doji demeure en lui. Il décide donc d'éviter à tout prix sa rencontre avec Ultimo. Mais si ses amis vivent à nouveau, c'est aussi le cas de ses pires ennemis. Donc les événements du tome précédent laissaient prévoir le pire comme le meilleur pour cette série. On pouvait craindre que les auteurs utilisent trop facilement la ficelle de la remontée dans le temps pour sortir Yamato et Ultimo de ce carnage, pour ensuite les faire vaincre leurs adversaires, mais il n'en sera rien. Stan Lee et Hiroyuki Takei sont bien plus malins que ça et font remonter le temps à notre héros de 24 heures, et seul lui se souvient des événements ayant eu lieu avant le choc des 100 machines. À partir de ce moment, on s'attendait à revivre de manière linéaire des événements des trois premiers tomes jusqu'à l'affrontement fatidique qui aurait changé, mais les auteurs choisissent de faire réfléchir Yamato afin qu'il ne commette aucune erreur durant les 24 heures qu'il lui reste. Ce dernier, à la recherche d'une alternative différente pour mettre fin au combat, se verra conseillé de bien étrange manière par Echo. On en apprend aussi davantage sur Musashi et on constate avec plaisir qu'on évite le cliché du genre. Les auteurs peaufinent ainsi leur univers fantastique avec ses histoires de sauts dans le temps. Le tome reprenant en grande partie les événements du premier volume, c'est sans surprise que nous retrouvons Iruma, le politicien. Un affrontement va ainsi avoir lieu et celui-ci change du premier tome tant il met en avant l'esprit dérangé du politicien. Mais Yamato se souvient des propos d'Echo et choisit de remonter le temps pour découvrir la vérité sur les événements ayant eu lieu des siècles auparavant. À ce titre, la révélation est faite sur la cohérence du lien entre les deux époques, lien toujours ancré dans ce cadre spatio-temporel plutôt maîtrisé pour le moment. À sa grande surprise, le lecteur découvre un Iruma dans le Japon féodal attachant, soucieux de son peuple, si bien qu'on se demande comment son alter ego a pu tourner ainsi. La fin du volume marquant l'apparition de Dunstan bouleverse le cours des événements, laissant le lecteur sur un suspense des plus palpitants. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce tome pouvait laisser prévoir le meilleur comme le pire, et nous sommes plutôt donc dans la première option. Le chemin scénaristique choisi par Lee et Takei est des plus subtils, et la manière dont tourne le scénario pourrait bien nous permettre d'en apprendre plus sur l'époque féodale présentée. Un très bon tome donc, qui se savoure sans problème, d'autant plus que le trait de Takei est toujours aussi efficace et atteint son summum lors des séquences d'action. On ne le répétera jamais assez, mais les robots sont le point fort de l'auteur. Voilà, donc je rappelle que la série Ultimo est parue aux éditions Kazé en 12 tomes. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Cineraria de Ballade, et on reviendra juste après pour la présentation du manga Adieu Eri.
私はあまりに生きていて、あの日並んだ赤いベンチはもうなくて、時を重ねて何も見えずに失って気づくかけがえない空、雪が映した
Donc c'était Balade avec la chanson Cineraria. On passe maintenant à la présentation du manga Adieu Eri, du titre original Sayonara Eri. C'est un seinen de genre drame, romance, tranche de vie, tragique, qui a été écrit par Fujimoto Tatsuki et prépublié dans le Shonen Jump+. La version japonaise est parue en 2022 aux éditions Shueisha avec un total d'un volume qui termine la série. Et la version française de ce one-shot est parue le 18 janvier 2023 aux éditions Crunchyroll. Vous pourrez retrouver Adieu Eri dans le commerce au prix de 7,29€, l'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc le résumé de ce one-shot, je veux que tu me filmes jusqu'à ma mort. Yuta, adolescent mordu de cinéma, accomplit cette dernière volonté de sa mère avec un brio explosif. Dépité par la réception de son court-métrage, il s'apprête à en finir à son tour lorsqu'il rencontre Eri. Cinéphile comme lui, la mystérieuse jeune fille va inspirer Yuta et l'aider à réaliser un nouveau film. Donc après Look Back, Tatsuki Fujimoto revient explorer la frontière floue entre le réel et la fiction pour livrer dans ce troublant court-métrage dessiné une vibrante déclaration d'amour au 7e art. Voilà, donc je rappelle que le one-shot Adieu Eri est à retrouver aux éditions Crunchyroll. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Yamazaki de Bang Yong-guk. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Yamazaki, 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 oh Yamazaki. Yamazaki, 내 속에 채워. 게을러지지 않기 위한 내 속을 태워. 맑아내온 이들이 시키는 짐만의 긴 같은 와말에 너나 하세요. Yo, 꼰대들의 동공 지진을 위해서 앉아 때리는 Devil's Goose. 죽여주는 월화는 행운이 내 죽었다 개나도 못하는 도지. 젊은 밤들이 보호 여성은 마크와 일성은 색깔의 술들은 저리죠 난 야마자키 나이 간지 서련하지 오 아리가토 우리 집 거실의 얇고 컬렉션 야 한 잔의 야마자키 혈관에 퍼진 향기 때문에 딘지 뜨거워진 vibe 일어나 일어나 젖히면 딘지 텐션의 텐션 Everybody go chill 차례 이 밤이 지나면 제 정신을 잃었지 저기 시작은 미역하는 꽃이 장대하리라 네가 진짜 네가 되고 네가 진짜 네가 돼 네가 비많은 놈들은 다 깡패가 돼 오늘 그게 뭐가 중요하니 또 내일이면 돼 마셔버려 용서 딴 생각하지 말고 지금 이 순간을 즐겨 만나니 줄 죽이는 full trouble 안 써있지 야마자키 혈관에 퍼진 향기 때문에 땡지 뜨거워진 vibe 일어나 일어나 젖히면 땡지 Everybody go chill 차례 이 밤이 지나면 제 정신을 잃었지 야마자키 정신을 치고 숨어 다른 나를 봐. 너희 다 다 버리는 감각 거장은 너도 악함을 갚치지 말지어다. 내가 지는 곳은 죄야 버릴게요. 날 목매로 다가오니 야마차키 한 잔을 먹쳐서 누리고 잔을 하면 돼. 야마차 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 야마차
간파이
야마차 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 간파이 파이파이
난 야마자키 나의 간지 사랑할지 오 아리가또.
Donc c'était Bang Young-guk avec la chanson Yamazaki. On passe maintenant au sorti manga de la semaine. Donc on en aura tout plein puisqu'il s'agit de toutes les sorties qui vont être présentées en avant-première à la Japan Expo dès ce jeudi 13 juillet. Donc on aura des sorties le jour d'avant avec mercredi 12 juillet aux éditions Nobinobi le volume 12 de Au Grand Air, le volume 6 de Colocataire à leur manière, le fanbook officiel de Orimiya 10.5, le volume 11 de Orimiya qui sera disponible en édition normale et en édition limitée. On aura le volume 11 de Mon Ami des Ténèbres et le volume 1 de Stitch, Aventure à Okinawa. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 5 de Back from Hell, Le Sage Persécuté se réincarne pour se venger, le volume 9 de Black Marriage, le volume 6 de Excuse Me Dentist, It's Touching Me, le coffret avec les volumes 1 à 3 de Insomniac, le volume 11 de La Sorcière Invincible Tueuse de Slime depuis 300 ans, le volume 18 des Aventures de Kirby dans les Étoiles, le volume 9 des Caprices de la Lune, le volume 1 de Mech The Exorcist Fall in Love, le volume 29 de Super Mario Manga Adventures, le volume 8 de The Vampire and the Rose, le volume 2 de Villainess Level 99 et le volume 5 de Witch Watch. Aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 1 de la Perfect Edition de Cat's Eye, le volume 7 de la Perfect Edition de City Hunter, le livre de coloriage Indigo de Demon Slayer, le volume 2 de Jungle Juice, le volume 4 de Shot L, le volume 3 de Sido, la réédition 2021, et le volume 6 de Yasha qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Mangetsu, on aura la sortie du volume 5 de Coq de Baston, le volume 5 de Deep 3, le volume 12 de KG, la réédition 2021, le volume 3 de Mighty Mothers qui sera le dernier tome de la série et le volume 1 de Tengen Hero Wars. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 20 de Death Tube, le volume 7 de Dragon Quest La Quête de Dai, le volume 1 de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, le volume 27 de Jojo's Bizarre Adventure saison 8 Jojo Lion qui sera disponible en édition normale et en édition collector. Il s'agira également du dernier tome de la série. On aura le volume 3 des Enfants de la Mer et les volumes 1 et 2 de Summer Ghost, une série qui sera terminée donc avec ces deux tomes. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 5 de la version remaster de Dreamland, le volume 26 de Eden's Zero, le volume 2 de How I Married an Amagami Sister, le volume 16 de Kaguya-sama Love is War, le volume 1 des Chroniques de la Guerre de Lodos, la Dame de Phallis, et le volume 24 de Sayonara, Monsieur Désespoir. Aux éditions Veritoon, on aura la sortie du volume 4 de Dungeon Reset, le volume 1 de The Beginning After the End, et le Coloring Book de True Beauty. Aux éditions Crunchyroll, on aura la sortie du volume 3 de Itomoji Stress Mortel, le volume 40 de Rin, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 2 de Two-Faced Tamon. Aux éditions Nazca, enfin, on aura la sortie du volume 2 de Horizon et le volume 20 de Tales of Demons and Gods. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 13 juillet avec chez Akata le volume 7 de A Sign of Affection, qui sera disponible en édition normale et en édition collector, le volume 4 de Hentai Kamen The Abnormal Super Hero, le volume 5 de Love Mix-Up, le volume 6 de Saturn Return, et le volume 7 de Sons of Life. Aux éditions Noev Graf, on aura la sortie du volume 1 de Au cœur du donjon, le volume 1 de Fleurs du désert et le volume 1 du labo de Musubu. Aux éditions Kana, on aura la sortie du volume 3 de Blue Wolves, le volume 30 de Fire Force, le volume 6 de Mordu de toi qui sera le dernier tome de la série, le volume 3 de New Normal, le volume 26 de Seraph of the End, le volume 16 de Shy, le volume 3 de Talento Seven, le volume 9 de The Elusive Samurai, le volume 5 de The Yakuza's Guide to Babysitting et le volume 13 de Yawara. aux éditions Kiun, on aura la sortie du volume 28 de Golden Camry. Aux éditions Kotun, le volume 1 de Itaewon Class et le volume 1 de The Sound of Magic. Aux éditions NC, on aura les volumes 1 et 2 de Je suis tombé dans un jeu de harem inversé. Chez Vega Dupuy, on aura la sortie du volume 1 de Kaio Dante, le volume 10 de Manchuria Opium Squad et le volume 2 de The Common Bread. Aux éditions Matacalm, on aura la sortie du volume 4 de My Horror Game. Aux éditions Omake Books, le volume 3 de Moon's Taboo. Aux éditions Michel Lafon, le volume 7 de Nina du Royaume aux Étoiles et le volume 6 de White Blood. Chez Hariken, on aura la sortie du volume 1 de Of Machines and Beasts, le volume 1 de Straight F. Witch et le volume 1 de The Ultimate of All Ages. Et enfin, chez Chato Chato, on aura la sortie du volume 1 de Self. Voilà, c'est tout donc pour les sorties manga de la semaine. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Lien Cook de Bishon Mai en featuring avec Mushon Oi et Nguaitet Kuem. Et on reviendra juste après pour parler culture avec l'histoire du Japon entre ouverture et repli dans les années 1800.
Xuân đã về, tiếng pháo hiệu mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân.
donc c'était Bi Xuan Mai avec la chanson Lien Kuk en featuring avec Me Xian Oi et Ngai Tot Kem. On passe maintenant à la partie culture, donc on va parler histoire avec le Japon entre ouverture et repli dans les années 1800. Donc en juillet 1853, les quatre navires de l'expédition Perry changent radicalement le destin du Japon. Après des siècles de quasi-autarcie, l'archipel est contraint par la marine américaine de s'ouvrir au monde. Cette occidentalisation forcée est globalement rejetée, tant par la population qu'au sein des élites. Mais que peut faire un empire rongé par les divisions face à des puissances occidentales déterminées et dont les troupes sont équipées d'armes puissantes et modernes ? La situation du Japon est si précaire que celui-ci accepte à contre-cœur de signer les traités Hansei avec les États-Unis, les Pays-Bas, la Russie, l'Empire britannique et la France. Plus connus sous le terme générique de traités inégaux, ces cinq textes sont ratifiés entre juillet et octobre 1858. Ils prévoient notamment l'octroi par le Japon de la clause de la nation la plus favorisée aux cinq pays signataires. Ils stipulent aussi que plusieurs ports du pays doivent désormais être ouverts au commerce international, que les citoyens étrangers peuvent y faire leurs affaires librement et que les droits de douane y sont très faibles. Dans les années qui suivent, le rejet de l'occidentalisation ne cesse de se renforcer. Le sentiment anti-étranger est symbolisé par l'idéologie Sonojoy, qui obtient l'adhésion de l'empereur Komei. Sortant de la réserve à laquelle la tradition impériale le cantonne, il s'implique de plus en plus dans les affaires de l'État. Il proteste régulièrement contre les traités inégaux, tout en s'immisçant dans la succession shogunale. Finalement, l'ordre d'expulser les barbares est émis le 11 mars 1863, au moment même des événements provoqués dans des événements évoqués dans les deux premiers tomes de Blue Walls, donc qui est paru aux éditions Glénat et dont j'ai parlé déjà la dernière fois. Donc s'il n'est pas appliqué par le shogunat Tokugawa, il provoque une vague d'attaques contre les intérêts occidentaux au Japon. Un marchand anglais est tué tandis que des navires sont bombardés dans le détroit de Shimonoseki. Finalement, les Occidentaux répondent par la force, mettant une nouvelle fois en exergue la faiblesse militaire du Japon. Voilà, donc on continuera à parler histoire au Japon la prochaine fois avec la légende du Shinsengumi. En attendant, on va pouvoir s'écouter une autre chanson, c'est Practice de Beast, et on viendra juste après pour la chronique du volume 7 de Sprite.
왠지 모르게 자꾸 네가 신경이 쓰여 나도 모르게 자꾸 너와 눈이 마주쳐 먼저 다가갈까 너의 주변을 맴돌지만 용기가 없는 난 애꿎은 손톱만 너에게 나는 어떤 사람일까 보나 마나 뻔하지 기억도 못할걸 오늘은 반드시 얘기를 해야 돼 소리 수백 번 들었는데 거울 속에 비친 또 다른 내가 What? 자꾸 방해해도 대체 너는 내가 맞는지 혼자서 연습은 이제 그만해 용기 내 다가가 Hey just a minute 나의 능력을 10분 발휘 Hey 아름다운 lady 너를 내 여자로 만들래 Won't you be my sweetie 떨리는 내 맘을 받아줘 너도 나와 같다면
Yeah 난 왜 너 앞에서만 걱정이가 돼 듣지도 않은 대답에 잔뜩 절하했네 그 그룹 앞에서도 당당하던 나인데 너의 눈만 마주쳐도 심장이 나대네 깨끗하다 그만 너도 다 소용이 없어 너에게 하나도 통하는 공식이 없어 날 이렇게 애태운 만큼 반드시 만들어야겠어 넌 내 여자로
너에게 나는 어떤 사람일까
보나 마나
뻔하지 기억도 못할걸 오늘은 반드시 얘기를 해야 돼
소리 수백 번 들었는데
거울 속에 비친 또 다른 내가 What? 자꾸 방해해도 대체 너는 내가 맞는지
혼자서 연습은 이제 충분해 너에게 다가가
Hey just a minute 나의 능력을 10분 발휘 Hey 아름다운 lady 너를 내 여자로
Donc c'était Beast avec la chanson Practice. On passe maintenant à la chronique du volume 7 de Sprite. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, science-fiction, surnaturel, thriller qui a été écrit par Ishikawa Yugo et prépublié dans le Big Comic Superior. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 15 tomes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Kazé avec également 15 tomes. Ce volume 7 est sorti le 2 janvier 2013 au prix de 7,99€. Le résumé de ce tome, un nouveau tsunami temporel s'est abattu sur la résidence, plongeant davantage les habitants dans l'angoisse. Cette fois, la vague noire du temps s'est retirée pour laisser place au Japon médiéval de Sengoku, une ère de conflit entre seigneurs de guerre. En plus des monstrueux légions, Sou et ses compagnons vont donc devoir faire face à l'armée du clan Takeda, qui prend la tour qui les abrite pour un château ennemi. Donc depuis le début de la série, nos héros voyagent à travers le temps, mais ne sont allés que dans le futur. Que se passerait-il donc si ceux-ci se retrouvaient à présent dans le passé? C'est donc cette situation que Sou et ses camarades vont se confronter, plus précisément durant la période des samouraïs face à l'armée du clan Takeda, un clan en guerre contre ses ennemis et qui va vite croire que la résidence qui abrite tous les personnages principaux est en réalité le château d'un de ses rivaux. Il ne reste alors plus qu'une seule solution pour progresser, tuer ou bien être tué. Dans ce tome, l'auteur tente une nouvelle idée en faisant voyager tout le monde dans le passé. Donc si vous en avez marre de ne pas avoir plus de révélations sur le pourquoi du comment du tsunami temporel et que vous voulez vraiment voir l'histoire avancer, autant vous dire directement que vous allez être déçu. En effet, dans ce volume, nos héros se préparent de nouveau à l'affrontement, un peu comme ça a pu être le cas avec les enfants de la forêt, et tout ce qui se passe ici est plutôt dépourvu de réel intérêt scénaristique et nous offre un début d'affrontement plutôt simplé. Après, cette idée de faire voyager les héros dans le passé est intéressante, cela pourra peut-être apporter quelque chose de plus pour la suite et il est intéressant de voir comment réagissent ensemble des gens d'une époque différente. Espérons juste que cela ne soit pas un moyen pour l'auteur de commencer à virer vraiment dans le n'importe quoi et dans l'improbable, notamment avec la scène de la fumée de cannabis par exemple. Bref, le problème est toujours le même, on ne sait pas où l'auteur nous emmène, s'il a dans sa tête un scénario parfaitement cousu, qui au final nous surprendra à l'avenir et donnera un réel intérêt à cet homme actuel, ou bien si c'est l'inverse et qu'il se perd peu à peu dans ses pensées en tentant vainement de s'en sortir. En attendant, ça se lit mais ça ne passionne pas et les scènes d'action manquent de finesse. Voilà, donc je rappelle que la série Sprite était parue aux éditions Kazé avec donc 15 tomes qui terminaient la série. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Moon on the Water de Beat Crusaders, et on viendra juste après pour une actualité au Japon.
What a fool, I don't know about tomorrow. tears.
Donc c'était Beat Crusaders avec la chanson Moon on the Water. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc une application japonaise détectant la douleur des chats pourrait, selon ses concepteurs, devenir une aide précieuse pour les propriétaires de félins comme pour les vétérinaires, notamment au Japon où le marché autour des chats se chiffre en milliards d'euros. Nommée CPD pour Cat Pain Detector, cette application gratuite utilise l'intelligence artificielle pour évaluer le niveau de douleur des chats à partir de leur expression faciale. Lancée en mai, elle est aujourd'hui utilisée par environ 43 000 personnes, principalement au Japon, mais également en Europe et en Amérique du Sud, précise à l'AFP Go Sakioka, le dirigeant de l'entreprise Carelogy, basée à Tokyo. L'outil, similaire à d'autres applications existant dans le monde, a été développé par l'entreprise en collaboration avec la Faculté des sciences de ressources biologiques de l'Université Nihon. Ces développeurs ont d'abord rassemblé quelques 6000 photos de chats pour étudier la position des oreilles, du museau, des moustaches et des paupières afin de déterminer les caractéristiques variables chez ces félins. Cette analyse s'appuie sur une échelle des grimaces de chats élaborée par l'Université de Montréal à partir d'expressions faciales de chats souffrant et en bonne santé. La seconde phase a consisté à construire, grâce à l'intelligence artificielle, un modèle à partir de ces données. Donc aujourd'hui, CPD a une précision de plus de 90%, assure M. Sakioka, ajoutant que son entreprise espérait aller plus loin grâce à quelques 600 000 photos prises par les utilisateurs de l'application, créées pour aider les propriétaires à mieux appréhender les changements comportementaux de leurs chats. Selon la Japan Pet Food Association, 60% des propriétaires de chats ne consultent un vétérinaire au mieux qu'une fois par an. On souhaite donc leur permettre de juger plus facilement à la maison de la nécessité de consulter ou non, poursuit-il. Si CPD a déjà été utilisé de manière expérimentale par des vétérinaires, il faut encore affiner la précision de l'intelligence artificielle pour que son usage se généralise au vu de l'engouement grandissant pour les chats, reconnaît-il. Selon Katsuhiro Miyamoto, professeur émérite à l'université du Kansai, le marché nippon lié aux félins pesait en 2020 l'équivalent de 13,2 milliards d'euros. Ce montant correspond à la somme des frais alimentaires et vétérinaires dans tout le pays, des ventes d'objets et accessoires, ainsi que des bénéfices générés par le tourisme, notamment dans de nombreuses îles aux chats, ou dans les très courus néco-cafés, les bars à chats. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Falling in Love de Berry Good, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
Talk to you.
Donc c'était Berry Good avec la chanson Falling in Love. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc après l'annonce il y a quelques semaines qu'une nouvelle agence du nom de Tobe, tenue par nul autre que Hideaki Takizawa, faisait son apparition dans le monde du divertissement, il n'en a pas fallu plus pour embraser la toile japonaise, en omettant la semaine dernière où les annonces ont commencé à pleuvoir. Avec une campagne de communication jouant sur l'interrogation de qui pourrait se cacher derrière des silhouettes, trois de ces artistes ont pour le moment été dévoilés, en commençant par Ken Miyake, qui a été donc révélé le 2 juillet. Il est connu pour avoir fait partie du groupe V6 et du duo Ken Takei. Il s'est par ailleurs présenté à travers un live sur la plateforme YouTube. Le 7 juillet dernier, ce n'est pas un mais deux artistes qui nous ont été dévoilés, Sho Hirano et Yuta Chigunji, deux jeunes personnalités bien connues du public. En effet, ils ont appartenu au boys band populaire King and Prince et avaient pris la décision en fin d'année dernière de quitter leur groupe pour voguer vers de nouveaux horizons. Ils se sont également présentés à travers un live. Donc à noter que des auditions sont ouvertes depuis le mois de mars avec pour optique de laisser tout individu résident au Japon la possibilité de rejoindre l'agence avec une mention particulière de droit à l'image pour, selon eux, laisser les candidats apparaître à la télévision, sur internet et d'autres médias pendant le processus de sélection. Une vidéo adressant les valeurs de l'entreprise avait d'ailleurs été révélée. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter la chanson Colors du groupe V6 pour terminer l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver du coup pas vendredi prochain mais lundi prochain pour une nouvelle émission Asian Bubble. Donc ça sera de 21h à 22h sur Neptune. Et sinon on se retrouvera donc dans deux semaines pour une nouvelle émission Cordialement Geek. Ça sera donc vendredi dans deux semaines de 18h30 à 19h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
もう 달라.